Contactez les professionnels du Centre de correction vertébrale. Grâce à la décompression discale, Martin a repris sa vie là où il l'avait laissée.
Croyez-moi, le Centre de correction vertébrale, c'est la clé pour votre santé.
À Sainte-Foy-Lévis-Pont-Rouge et au centre CVQ.com.
Bonjour, votre destination?
Au nouveau Lévis Subaru.
C'est simple, maintenant situé au 5085 Christophe Colomb-Lévis, autoroute 20, sortie 325 Nord.
C'est parti! Lévis Subaru, c'est la place pour ta nouvelle voiture. LévisSubaru.com.
Hey mon Yvan, t'es-tu rendu à la retraite?
Ouais, le mois prochain.
Ben voyons donc, t'es ben trop jeune pour rester planté chez vous.
Jeune? Ben on va se calmer. Disons que je suis rendu là.
Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à te chicaner avec Cathy?
Ah, regarde, je vais me trouver de quoi.
Entretien Capital recrute. Poste à temps partiel disponible 15, 20 ou 25 heures par semaine selon ton horaire. Une équipe solide en affaires depuis plus de 35 ans avec des emplois partout dans la grande région de Québec. Facile à trouver sur Facebook et en ligne. Cherche Entretien Capital, pas de E à Capital.
C'est parfait pour toi, ça, mon Yvan.
T'as bien raison, mon popole.
Si ça marche, c'est toi qui paye le lunch la prochaine fois.
Entretien Capital, pas de E à Capital.
Chez Subway, on te laisse choisir ton niveau de piquant. Fait que manger épicé, c'est pas dangereux.
Cool, parce que moi, on m'a toujours dit, attention le feu, c'est chaud, c'est...
délicieux! Oh, le nouveau menu chaud comme tu veux de Subway. C'est trois sandwichs, poulet ranch ou piri-piri relevé, poulet au miel épicé corsé ou deli façon Nashville endiablé. Fraîchement préparé dans notre nouveau pain au piment Ghost. C'est relevé, corsé, endiablé.
Etc.
Plus de remise en question, tu peux suivre les indications. Subway, mange prêt, sens-toi bien. Fraîchement préparé pour un temps limité dans les restaurants participants.
Comme la majorité des Québécois, vous avez sûrement des serpuariens qui traînent chez vous. Mais des serpuariens, ça peut encore être utile. Ils contiennent plusieurs matières réutilisables qui peuvent servir à fabriquer toutes sortes de produits. C'est pourquoi il est important de les apporter dans un des points de dépôt officiels du programme de recyclage des produits électroniques du Québec. Éco-centre, détaillant de produits électroniques ou autre organisation membre du réseau. Recycler ses serpuariens, ça sert pas à rien. Visitez recyclermeselectronique.ca.
Portneuf, êtes-vous déjà passé chez Saint-Raymond Ford? Des Ford prêts pour la route, des offres qui valent le détour et du service comme avant. Avant de signer ailleurs, arrêtez chez Saint-Raymond Ford. Une équipe humaine, une expérience qui pourrait vous surprendre. Saint-Raymond Ford.
Paradis, paradis.
En 1976, pendant que tout le monde dansait sur Dancing Queen,
on n'a pas le temps.
Monsieur et Madame Paradis ne fréquentaient pas les planchers de danse. Ils préparaient le terrain pour un grand rêve. Joyeux 50e anniversaire, Paradis, jardin et accessoires.
Choix. Hell yeah!
Choix.
98.
Yes! 98.
1. Radio X.
Choix.
À Québec, c'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files
avec Christian Page.
Oh my gosh. Radio X.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bon vendredi. Bienvenue dans une autre édition des Radio X Files avec Christian Page. Bonsoir Christian.
Salut.
Bienvenue sur les ondes de Radio X pour une autre semaine de ces Radio X-Files où on va parler cette semaine des fantômes et de quelque chose dont j'ignore l'existence qui s'appelle les infrasons.
Oui, les infrasons. Donc, écoute, c'est un sujet qui est tout à fait fascinant et en même temps, je me devais d'en parler parce qu'il faut quand même être critique par rapport à ça et malheureusement... il y a de moins en moins, et tu vas le voir avec au moins deux de nos nouvelles de ce soir, oui. Il y a de moins en moins de sens critique dans ce qu'on pourrait appeler la presse scientifique. Et dans le cas présent, c'en est un bon exemple. Donc, c'est un article qui est paru il y a quelques jours dans Frontiers in Behavioral Neuroscience. Donc,
okay.
ça semble tout à fait sérieux. Et en fait, c'est une étude qui a été menée par des chercheurs des universités McEwen et de l'Université provinciale de l'Alberta. L'Université McEwen est également une université en Alberta. Donc, on a des chercheurs de ces deux universités qui ont fait un travail, qui ont publié une étude scientifique dont je te fais grâce du titre en anglais. En français, même en français, c'est déjà un peu rasoir. Le titre de l'étude, c'est « L'exposition aux infrasons est liée à des réactions aversives, à une évaluation négative et à une élévation du cortisol chez l'homme. »
Okay.
Donc, c'est le genre de... Hein, tu trouves ça, tu dis « Mon Dieu, ça a donc de l'air intéressant. Oui. » Tu me lances dans cette lecture-là. Et en fait, ce que les scientifiques expliquent, c'est qu'ils ont pris une trentaine de personnes qui ont été choisis au hasard, et on les a fait entendre des extraits musicaux. Okay. Dans ces extraits musicaux, il y avait des extraits qui étaient, disons, à caractère apaisant, hein, par exemple un crooner ou musique classique ou ce genre de truc, et on avait de la musique, qu'on disait « perturbant ».
Oui.
Heavy metal ou ce genre de truc-là. Puis là, on comprend bien, là, ici, je ne fais pas un jugement de style musical. Là. Les gens peuvent aimer la musique qu'ils veulent. Je disais que pour l'étude, on a choisi d'un côté une musique douce, musique un peu apaisante, nouvel âge, musique classique, et de l'autre côté, de la musique plus rythmée, et en particulier de la musique là, très forte comme le heavy metal. Dans certains de ces extraits, peu importe si c'était de la musique apaisante ou de la musique plus rythmée, oui, disons ça comme ça, quel que soit le style musical, dans certains extraits, les scientifiques ont rajouté des infrasons. Donc là, je vais te renseigner qu'est-ce que c'est les infrasons. Bien, ce sont des modulations sonores qui... Bon, l'oreille humaine a quand même un vaste répertoire. Hein? La fourchette est grande. L'oreille humaine peut entendre des sons qui vont de 20 Hz à 20 000 Hz. Donc ça, c'est l'étendue du champ auditif de l'oreille humaine. Au-delà de 20 000 Hz, on entre dans ce qu'on appelle les ultrasons. Donc évidemment, il y a des espèces animales qui entendent les ultrasons. Par exemple, les chauves-souris vont utiliser les ultrasons pour se guider, hein, ce qu'on appelle l'écholocalisation. Et d'un autre côté, en dessous du 20 Hz, c'est des sons qui sont inaudibles pour l'être humain, mais encore une fois, il y a des espèces animales qui les entendent, notamment les éléphants entendent en dessous des 20 Hz. Donc, les éléphants entendent des sons que toi et moi, on n'entend pas, et les chauves-souris aussi entendent des sons que ni toi ni moi n'entendons. Donc, mais quand même le mentionner, là, l'échelle, la fourchette dans laquelle l'oreille humaine est capable d'entendre des sons, elle est quand même très, très grande. Donc, on a mis des infrasons, donc des sons, en dessous du 20 Hz, on a additionné ça aux échantillons musicaux. Ça n'avait pas d'importance que ce soit de la musique douce ou de la musique rythmée. On a simplement ajouté, de manière un peu aléatoire, des infrasons, donc des modulations sonores en dessous du 20 Hz. Donc la personne, tu comprends, qui était dans la chambre d'écoute, n'entendait que l'extrait musical. Il n'entendait pas de manière auditive les infrasons, même si les infrasons étaient là. Et ce qu'on a découvert de cette étude, c'est que les gens qui entendaient la musique, peu importe que ce soit la musique douce ou la musique rythmée, les gens qui entendaient la musique avec les infrasons avaient des réactions plus marquées. Donc, okay, ces gens-là développaient, ils avaient écouté on leur demandait les impressions, et quand ils avaient été soumis à des infrasons, ils disaient qu'ils avaient ressenti un sentiment d'irritabilité, de l'agacement, de la peur, de malaise, anxiété. Et chez certains de ces individus, on a mesuré une élévation du cortisol. Le cortisol, qui, faut-il le rappeler, est l'hormone du stress. Donc, en fait, le style musical n'avait pas d'influence sur ces gens-là. Ce qui avait de l'influence, c'était la présence des infrasons. Or, les infrasons, on ne les entend pas par l'oreille humaine. Et là, les scientifiques font le postulat que dans la nature, il y a des endroits, il y a des mécanismes qui vont entraîner des infrasons. Par exemple, des systèmes de ventilation peuvent entraîner des infrasons. Le grognement, le rondement d'un moteur qui fonctionne pas bien peut émettre des infrasons. Et il y a même la circulation de l'eau dans des canalisations qui sont de moins bonne qualité peuvent provoquer des infrasons. Donc, les scientifiques se sont dit, bien, comme les infrasons provoquent ces comportements-là, on retrouve ce type de comportement souvent dans des lieux que l'on dit hantés. Donc, les gens vont visiter des lieux, puis ils disent, bien là, moi, je ne me sens pas bien ici, j'ai un sentiment de présence, je me sens stressé. Donc, ils font un peu l'hypothèse Et souvent, bon, les maisons hantées, ce sont souvent des vieilles bicoques. Souvent, il y a une mauvaise canalisation. Il y a des systèmes de ventilation qui sont désuets ou des moteurs de ventilateurs qui ne fonctionnent pas bien. Bon, tu sais, tu arrives dans une maison et on dit, bon, il y a un système d'air climatisé, mais tu sais, il date des années 60. Ben, ça se peut qu'il ne fonctionne pas aussi bien qu'il fonctionnait à l'origine. Donc, un peu ce type de truc-là. Puis bon, les canalisations, dans des vieilles maisons, souvent, on aura des systèmes de chauffage à l'eau chaude avec des radiateurs. Donc, si les canalisations sont pas fonctionnelles ou inadéquates, ils peuvent entraîner des infrasons. Donc, l'hypothèse qu'ils émettent à partir de cette étude, c'est de dire, ben voilà, dans certains lieux, il peut y avoir l'émission d'infrasons et des gens qui vont se retrouver dans cet environnement auront l'impression de sentiments de présence qu'ils associeront à des revenants ou à des fantômes, mais qui en réalité s'expliquent par des phénomènes tout à fait naturels. Donc, c'est un peu ce qui est proposé dans cette étude. Et pourquoi je voulais en parler? Parce que, bon, d'abord, je le souligne, c'est intéressant, ce genre de truc-là, ce genre d'expérience. Mais en même temps, il faut quand même être prudent. Et c'est malheureusement ce qu'on ne retrouve pas quand l'article est sorti dans la presse scientifique. Certains médias ont repris ça, sans faire de distinction, en disant, ben voilà, on a trouvé la solution aux fantômes. Je pense qu'on est allé un peu vite.
C'est un peu facile.
C'est un peu facile. Parce qu'il y a plusieurs éléments dans lesquels on doit tenir compte. D'abord, cette explication, elle n'est pas nouvelle. On arrive avec une étude avec les infrasons, mais cette hypothèse, elle circule déjà depuis les années 60, depuis les années 1960. Elle circule dans le milieu de la parapsychologie et on l'appelle l'hypothèse de l'environnement, l'hypothèse environnementaliste. Cette hypothèse soutient que des phénomènes dans la nature pourraient engendrer des perceptions erronées par des personnes qui se trouveraient dans ces environnements. Dans les années 70 et 80, il y avait un scientifique à l'Université Laurentienne qui est décédé maintenant, en 2018, qui s'appelait Michael Persinger. Lui avait émis l'hypothèse que c'était des variations dans les champs électromagnétiques. Il avait raison, d'une certaine façon, il avait raison que les variations dans le champ électromagnétique entraînent des perturbations, à tout le moins, des perceptions erronées de la réalité. Moi, je me rappelle, on est au début des années 2000, Persinger était toujours à l'Université Laurentienne à ce moment-là, en Ontario, et je lui avais rendu visite dans son laboratoire. Et Persinger avait développé ce qu'on appelait, ce que les chercheurs de l'époque appelaient le casque de Dieu. C'était un casque de football qui était relié à toutes sortes d'électrodes. Et donc, on entrait dans une pièce, j'en ai fait l'expérience, donc on entrait dans une pièce où on avait une privatisation sensorielle. On nous mettait un bandeau sur les yeux, par exemple. On était assis dans un fauteuil, il n'y avait pas de lumière, on était dans l'obscurité totale. Une chambre qui était tout à fait isolée, donc pas de bruit ambiant. Et là, on plaçait le casque sur notre tête et dans une chambre adjacente, il y avait des laborantins qui manipulaient le champ électromagnétique à l'intérieur du casque. Et ce champ-là, bien évidemment, affectait le champ électromagnétique naturel du cerveau humain. Et là, effectivement, moi, pour avoir fait l'expérience, j'avais des sensations tout à fait étranges. J'avais la sensation, de flotter à un moment donné. J'avais l'impression d'entendre des voix, évidemment, qui n'existaient pas. J'avais l'impression de sentir des présences autour de moi. Et j'avais également un sentiment d'angoisse qui s'est rapidement développé. Donc, la théorie, l'hypothèse évoquée par Persinger en disant, voilà, les champs électromagnétiques peuvent entraîner des perceptions erronées de la réalité. Il avait raison et il pouvait le démontrer très clairement dans un laboratoire. Dans la même foulée de cette explication, disons, environnementale, à laquelle appartient à la fois les champs électromagnétiques de Persinger et les infrasons des chercheurs de l'Université de l'Alberta, on a également l'hypothèse des champignons. Donc, on a soumis, par exemple, des gens dans un laboratoire, on les a soumis à des champignons, et très souvent, en fait, des spores de champignons, et très souvent, des spores de champignons qui sont des moisissures communes qu'on retrouve dans des systèmes de ventilation et autres. Et en soumettant ces gens-là à ces spores, ben ils ont développé éventuellement une perception, en s'entraîner toutes sortes de comportements étranges. Ils avaient des sentiments d'anxiété et autres. Et ça peut aller même dans le cas d'une longue exposition à ces spores, ça peut aller jusqu'à des hallucinations auditives ou des hallucinations visuelles. Donc, on est exactement dans cet univers du phénomène des maisons hantées et tout le reste. Donc, l'hypothèse environnementaliste, elle est présentée comme étant une solution vraisemblable. Mais ici, ce qu'il faut faire comme distinction, c'est que malheureusement, et c'est ça que, entre l'hypothèse et la démonstration, ça n'a jamais été fait. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pas parce qu'on soumet des gens à des champignons dans un laboratoire pour dire « Ah, ben regardez, on les soumet à des champignons de moisissure et ces gens-là ont soudainement des hallucinations. » Ça doit être ce qui se produit dans des maisons hantées. C'est une hypothèse. Encore faut-il le prouver. Et c'est là qu'est tout l'aspect du problème, c'est que ça n'a jamais, mais jamais été prouvé. Et c'est ça qu'il faut absolument dénoncer. Moi, je me rappelle, en début d'année, il y a un livre qui est sorti, dont j'ai signé la préface, qui s'appelle « Phénoménologie des hantises », qui a été écrit par un chercheur européen qui s'appelle Mallory Clément. Et à mon avis, c'est probablement l'un des meilleurs livres sur les phénomènes de hantises et de poltergeist à avoir été publié au cours des 20 dernières années. C'est la raison, d'ailleurs, pourquoi j'en ai signé la préface, parce que je trouve que c'était vraiment un livre exceptionnel. Mallory Clément, disons-le, plus jeune que moi et peut-être un peu plus fougueux, a fait un peu de son cheval de bataille cette dénonciation de ce qu'on appelle l'hypothèse environnementaliste. Pourquoi? Parce qu'il souligne, et il a raison de le faire, qu'on n'a jamais démontré sur le terrain que c'est ce qui se produisait. Donc, il faut faire attention. On a une mauvaise presse quand on fait ça. Donc, on prend une étude qui est menée ou des expériences en laboratoire et on en conclut que ça doit être ça qui se passe sur le terrain. Mais encore une fois, ça n'a jamais été démontré. Il n'y a aucune étude qui montre, parce que c'est ce qu'il faudrait démontrer, tu comprends, c'est si tu me dis que des champignons ou des moisissures ou des infrasons ou des variations du champ électromagnétique entraînent ces comportements, si on peut le démontrer en laboratoire, encore faut-il montrer que les soi-disant lieux hantés ont ces caractéristiques. Donc, et on n'a pas ces études-là. C'est sur le terrain, là. Il n'y a aucune étude qui montre que la maison hantée X ou Y ou dans tel ou tel endroit qui ont la réputation d'être hantée, qui a des champignons de moisissure, qui a des variations dans le champ électromagnétique ou encore qui a des tuyaux mal foutus qui produisent des infrasons. Il n'y a aucune étude qui montre ça. Donc, le fait qu'on le fait en laboratoire, ça fonctionne bien. Mais encore faut-il démontrer que les soi-disant lieux hantés ont ces caractéristiques. Et ça, ça n'a jamais été fait. Donc, il faut tenir compte de l'explication environnementaliste ou de l'environnement. Je pense que c'est une approche intéressante, mais c'est pas parce que tu as trouvé une clé que cette clé-là ouvre toutes les serrures. Hein? Donc, c'est intéressant. Si moi, à partir de ces informations qui sont d'ordre scientifique, qui sont démontrées et expérimentables en laboratoire, si je me rends dans un lieu hanté, je dois avoir dans mon coffre d'outils des mécanismes pour vérifier s'il y a des variations dans le champ magnétique sur le terrain qui pourraient entraîner non pas l'apparition ou les cas 2 qui vont se mettre à clignoter, mais entraîner chez les sujets qui seraient présents des comportements ou des perceptions erronées de la réalité. Donc, tu vois, le code 2 ici, il sert pas à montrer qu'il y a des fantômes qui existent. Il servira davantage à démontrer pourquoi des gens ont des hallucinations.
Oui, tout à fait.
T'sais, le code 2, l'appareil, on en avait parlé il y a quelques semaines, cet appareil, là, tu sais, je pense que c'était le mois dernier, parmi les questions que les gens me posaient, c'est est-ce que le code 2, ça fonctionne? Puis on en avait longuement parlé. Dans le cas présent, là, dans l'hypothèse environnementaliste, on pourrait utiliser un code 2, mais pas pour démontrer qu'il y a des fantômes, pour démontrer que les gens ont des hallucinations. C'est ça qui pourrait servir. Ou encore, d'autres appareils qui permettraient d'évaluer le nombre, la quantité de moisissures qu'il pourrait y avoir sur les lieux, ou encore la qualité des tuyaux et la présence d'infrasons. Donc, je dois en tenir compte. Mais à partir du moment où j'ai fait ces évaluations-là, je risque fort de me dire, bon, ben là, il n'y a rien d'aucune de ces hypothèses-là. Et ça n'empêche pas les gens quand même de vivre des expériences de type anormal ou anomale, pour prendre l'utilisation que les scientifiques donnent à ce type d'expérience. Donc, des expériences anomales sur le terrain, sans pour autant pouvoir valider l'explication environnementale. Donc, il faut faire très attention à ça. Et en même temps, il faut éviter aussi ce que moi j'appelle le cherry picking. Le cherry picking, c'est de prendre ce qui fait ton affaire, puis finalement, tu mets de côté ce qui ne fait pas ton affaire.
Ouais.
Dans le cas, par exemple, des maisons hantées, souvent, on est en présence de plusieurs types de phénomènes. On n'est pas seulement en présence de gens qui disent « j'ai senti de l'anxiété » ou « j'ai senti des présences ». Bien souvent, il y a d'autres phénomènes qui vont accompagner ça. Par exemple, le fait de voir des objets qui vont se déplacer, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, ce genre de trucs-là, hein, ou des variations, des mécanismes électroniques qui vont tomber en panne. Il y a toutes sortes de trucs qui peuvent arriver. Donc, ce n'est pas seulement de dire, ben là, quand j'ai un témoin qui est allé dans un lieu hanté, puis il disait qu'il vivait de l'anxiété, et là, on peut démontrer que des informations créent de l'anxiété. Oui, mais en même temps aussi, il dit qu'il a vu une table qui bougeait tout seul, ou on a pu documenter qu'un meuble a bougé tout seul, ou des trucs comme ça, ou qu'il y a eu des apparitions, ou... et d'autant plus si on a des apparitions qui sont rapportées sur une longue période de temps et qui sont observées par des personnes qui se connaissent pas ou connaissent mal le folklore associé au lieu. Et par exemple, tu as des gens qui disent, bon, ben voilà, on va visiter une maison hantée. Ces gens-là, en dehors du fait de savoir que la maison est hantée ou la rumeur de la maison hantée, disent, ben voilà, j'ai vu le spectre, par exemple, d'une femme vêtue à la mode du 19e siècle. Et trois ans plus tard, des gens qui visitent les lieux qui ne savent absolument rien, ben une dame dit, ben voilà, j'ai vu le fantôme d'une dame qui était vêtue avec la mode du 17e ou 18e siècle. On a des observations qui sont communes à des groupes de gens sur une longue période de temps, qui ne se connaissaient pas nécessairement, qui ne connaissaient pas nécessairement le lieu, le folklore associé au lieu, et qui pourtant décrivent des expériences qui sont assez semblables. Et ça, ben évidemment, on n'en tient pas compte, parce que les infrasons, on ne peut pas faire ça. Donc, on choisit que, oui, ces gens-là vivaient de l'anxiété, mais le fait qu'ils ont vu également des fantômes, ça, on oublie ça, parce que ça cadre pas, hein, ça fonctionne pas avec le discours. Donc, on choisit finalement, sur le terrain, les éléments qui feront notre affaire pour le faire coller au discours de ces études qui sont menées en laboratoire. Mais je pense que c'est pas nécessairement la façon de faire. Et on doit tenir compte de ces hypothèses dites environnementalistes ou de l'environnement, mais de là à prétendre que c'est la clé qui permet d'expliquer. Parce que bon, cet article-là, quand il est sorti là, il y a quelques jours, c'était « On a trouvé l'explication aux fantômes ». Je me dis, ouais, mon Dieu, il y a loin de la coupe aux lèvres. Là, hein? Démontrer ça dans un laboratoire, il le démontrait sur le terrain, il y a un monde entre les deux. Donc, on voit, il y a un désir, il y a une certaine presse scientifique, et je te dirais même une presse sceptique, qui a un désir de trouver une explication rationnelle et souvent en nivelant par le bas. Encore faut-il démontrer qu'il y a une causalité sur le terrain, et ça n'a pas été fait. Et je comprends Mallory Clément d'avoir fait de ces affirmations souvent non fondées, son cheval de bataille, puis il le fait avec une certaine virulence. C'est certain de ses commentaires quand on voit la façon dont il s'attaque à ça. Et on voit que ça le choque de voir comment des journalistes, qui se disent des journalistes scientifiques, tombent rapidement dans ce piège-là et soudainement vont évoquer haut et fort ces hypothèses de laboratoire, mais qui, et encore une fois, faut-il le préciser, n'ont jamais, mais jamais été démontrées sur le terrain. Donc, ce sont des hypothèses intéressantes. La seule chose que l'on a pu démontrer de manière très probante sur le terrain, c'est le folklore. C'est-à-dire que, et là je te résume ça, là, je vais faire un peu les coins ronds, là, mais il y a des expériences qui ont été menées, notamment en Angleterre, par des chercheurs en parapsychologie, où on a pris, je te donne les deux contextes, on a pris des étudiants qui travaillaient en urbanisme et en architecture. Et on leur a dit, ben voilà, on va vous amener dans un lieu où on doit abattre une cloison et on doit également refaire la façade du bâtiment. Ce bâtiment-là, à leur insu, ces gens-là ne le savaient pas, mais ce bâtiment-là avait la réputation d'être hanté. Donc, ces étudiants-là ont été amenés sur les lieux, mais on ne les a pas dit que le lieu était hanté ou qu'il avait la réputation d'être hanté. Donc, ces étudiants ont passé pratiquement une journée sur les lieux. Et là, on leur demandait, hein, et eux, ils croyaient qu'ils étaient là pour un travail d'ordre de l'architecture ou de l'urbanisme. Donc, évidemment, ils ont fait le tour du bâtiment. Ils ont dit, moi, j'abattrais cette cloison, on abattrait telle autre cloison. Pour ce qui est de la façade extérieure, on ferait tel aménagement pour pouvoir se fondre ou à tout le moins respecter le style du quartier, etc. Et à la fin de cette journée passée sur ce lieu, quand on leur a demandé comment ils s'étaient sentis, etc., aucun d'entre eux n'a évoqué quoi que ce soit de nature surnaturelle. Zéro. Et ensuite, on a refait la même expérience en prenant exactement le même type d'individus, donc des étudiants en urbanisme, en architecture. Et là, on lui a dit, on va vous amener dans une maison, encore une fois, avec sous prétexte, on veut abattre une cloison, on veut réaménager la façade de l'édifice. Et dans le discours, hein, le professeur a glissé un peu comme par inadvertance ou un peu en blague. Hein, il dit aux étudiants, d'ailleurs, en passant, cette maison-là a la réputation d'être hantée. tu sais, ouais, un peu ça. Comme en joke, tu sais, il dit ça comme ça, puis, tu sais, très anodin, là, tu sais, c'est au milieu de la conversation, il glisse ça. Ben, crois-le ou non, il a pris ses étudiants et les a emmenés dans cette maison qui, dois-je le rappeler, n'avait pas la réputation d'être hantée. Il a suffi que le professeur dise que la maison avait la réputation d'être hantée pour qu'à la fin de la journée, pratiquement 50 % de ses étudiants rapportent des perceptions de nature surnaturelle. Ah, ces gens-là ont dit, « Mais semble, j'étais dans une pièce, puis j'ai senti un courant d'air froid. Mais semble, j'ai vu du coin de l'œil une ombre passer sur le mur. Je me suis senti pas bien. » Et pourtant, cette maison-là n'avait pas la réputation d'être hantée. Donc, ce que démontre cette étude... Et là, c'est plus complexe que ça. Puis, en fait, quand je dis une maison, c'était pas vraiment une maison, c'était des souterrains en Écosse. Là, mais bon, pour le besoin de notre conversation, là, on comprend l'exemple, hein, même le terrain sur lequel on se trouve. Et l'expérience montre bien qu'il suffit d'avoir la perception qu'un lieu est soi-disant hanté pour que soudainement nos sens se mettent aux aguets et que notre imagination fasse le reste.
Un peu comme un placebo, comme un médicament, placebo, par exemple.
Oui, c'est ça. Donc, on a un peu cet exemple-là. C'est-à-dire que si tu dis que le médicament va faire effet, bien, les gens vont imaginer qu'ils ont un effet, même si le médicament n'est rien d'autre que du sucre. Bien, c'est un peu la même chose ici. Il suffit d'amener des gens dans un lieu, de leur dire que le lieu est hanté, et là, il y a plein de gens qui vont vivre des expériences étranges. Et c'est très souvent ce qui se passe. Hein. Quand on regarde dans la littérature, dans le folklore sur les fantômes, bien évidemment, les gens, les chasseurs de fantômes, vont dans des lieux qui ont la réputation d'être hantés. Ils nous racontent des histoires. Ah oui, je suis allé là, je me sentis pas bien. Puis... Mais des expériences en aveugle ont démontré que le fait simplement de croire qu'un lieu est hanté, 50 % des gens vont raconter avoir vécu des perceptions étranges. Donc ça, on a une démonstration très claire que cette perception-là, elle existe et elle influence les témoignages. Mais l'idée des infrasons, l'idée des infrasons, les variations du champ électromagnétique ou encore les champignons, même si en laboratoire on a pu faire ces démonstrations-là, encore faut-il démontrer que c'est ce qui se produit sur le terrain. Et ça, malheureusement, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas démontré. Donc, il faut rester, c'est une étude intéressante. Comme je le dis, on doit en tenir compte. Si le sujet des fantômes nous intéresse, on doit bien sûr en tenir compte si on va visiter un lieu hanté. Il faut également aussi se méfier de nous-mêmes si on visite un lieu hanté, hein, et qu'on sait être hanté. On sait que notre imagination peut rapidement nous jouer des tours, mais il faut rester quand même prudent. Comme je l'ai mentionné, c'est pas parce qu'on a trouvé une clé que cette clé ouvre toutes les serrures. Et malheureusement, les articles qui ont suivi la publication de cette étude ont fait, disons, de distinction entre les deux. Ils sont vite allés en disant, ben voilà, on a trouvé l'explication des fantômes. Et j'imagine que si cette étude arrive aux oreilles de Mallory Clément en France, ça va en faire une de plus à mettre dans sa pile pour dire, ben voilà, ça c'est
un peu de la foutaise.
Non, mais tu sais, c'est un peu de la foutaise de prétendre que ça c'est l'explication universelle au phénomène des fantômes. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de démonstration sur le terrain.
Très intéressant, Christian Page. Il y a plusieurs autres sujets sur la table pour la soirée.
Mais là, j'avais mon chronomètre devant moi, donc je savais qu'on était rendu à la période de la pause.
Et tout à fait.
On va s'arrêter là, puis on va revenir après avec un autre truc où on peut quand même reprocher aux journalistes de faire de la mauvaise presse.
Bougez pas, vous êtes dans les Radio X Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. On revient tout de suite après ceci.
Radio X Files.
Execute program. Avec Christian Page.
Radio X. Le show du matin. Weekend.
C'est aphrodisiaque pour moi.
Avec Carbo.
Ça pas de bon sens.
Samedi et dimanche, 6h.
Radio X.
Présenté par Silencieux Proto.
Votre voiture fait du bruit? Silencieux Proto évalue votre véhicule sans frais, répare et fabrique vos systèmes d'échappement sans rendez-vous. Silencieux Proto à Québec et Lévis.
Pour vos pièces automobiles, c'est Nordique. Pour vos pièces d'auto au meilleur prix, avec un service hors pair. Ne vous laissez pas berner par la compétition. Le prix, ce n'est pas tout. Bien sûr, nous avons les prix, mais surtout le choix et les explications du pourquoi ceci ou cela selon vos besoins avec le sourire. Frein, suspension, entretien maintien général, on a tout ça. Votre budget, on le respecte et on vous donne ce qu'il y a de mieux pour vos dollars. Bon prix, qualité et service depuis 47 ans. Nordique, Première Avenue et Henri Bourassa. Nordique.com.
Chez Maxi, la méga-vente offre tellement de méga-rabais qu'il faut aller méga-vite pour passer à travers. Les cerises à 2,99 $6,59 le kilo. Le beurre à 4,77 Les pilons de poulet à 1,99 la livre, 4,39 le kilo. Ouh! Plus de détails en circulaire et chez Maxi.
Davy recrute 500 postes. Oui, oui, 500 postes. Assembleur mécanique, soudeur, tuyauteur, plombier et constructeur naval. Avec des conditions de travail solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule dès maintenant à davyrecrute.ca. Davy, viens travailler avec nous.
Chez RA+, votre confort, c'est notre priorité. Climatisation, thermopompe, installation et réparation rapide. Un service clé en main. Distributeur de la marque Mover. Mover, numéro 1 selon Protégez-vous. En plus, courez la chance de gagner un crédit voyage de 5 000 $ tiré parmi notre clientèle. Détails et règlements sur notre site web aira+.ca. RA+, plus de services, plus de confort.
Ce samedi, samedi d'économiser. Et ça tombe bien, parce que c'est un super samedi à la SAQ. Ça veut dire que dès demain seulement, je peux épargner 20% de rabais sur les produits sélectionnés en succursale et en ligne. 20% de réduction sur une sélection de vins, spiritueux ou de prêt-à-boire, ça en fait des économies. Mais il faut se dépêcher, car c'est premier arrivé, premier servi. Le super samedi à la SAQ, c'est super. SAQ, le goût de partager. Valide sur les produits sélectionnés jusqu'à épuisement des stocks, 18 ans plus, détails dans SAQ.com.
Vous avez de grands projets pour votre cour? Réalisez-les grâce au Centre de vrac Saint-Jean. Terre à jardin, terre à gazon, compost, pierre décorative, sable, gravier, paillis, des matériaux d'excellente qualité, le tout en vrac, chargé dans votre remorque en moins de 5 minutes ou en livraison. C'est le temps de démarrer votre projet de jardin. Passez en magasin dès maintenant et payez même à l'extérieur. Le Centre de vrac Saint-Jean, ouvert du mardi au dimanche, même les jours fériés. Centre-de-vrac-saint-jean.ca.
Retrouvez le plaisir de sourire en toute confiance. Au Centre dentaire Cartier, anciennement Girard et Martineau, l'implantologie dentaire, on s'y connaît. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une consultation sans frais et découvrir nos solutions sans greffe osseuse. Nous offrons également des soins dentaires complets, du nettoyage à la dentisterie esthétique pour toute la famille. Centre dentaire Cartier, c'est une équipe humaine et professionnelle qui saura être disponible et à l'écoute de vos besoins. Alcartier Québec.
Arbre ou arbuste, telle est la question. Fanny de ne pas être bien conseillée. Pour un bouquet de choix, une Floralie de couleur. Faites-vous une fleur et passez chez Floralie Jouvence, votre centre jardin sympathique. À Québec et Lévis, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
Quand j'arrive le matin, le surveillant me dit toujours bonjour.
Quand ça ne va pas, mon éducatrice m'aide à trouver des solutions.
Quand je reviens de l'école, je suis fière de montrer ce que mon enseignante m'a appris.
Derrière chaque élève, une équipe entière veille à son bien-être et à sa réussite. Le 26 mai, prenons le temps de dire merci au personnel scolaire. Un message du gouvernement du Québec.
Tanné d'envoyer ton argent aux États-Unis? Là, il y a une alternative. Tibi Taxi, une application québécoise pour le monde d'ici. Réserve ton taxi en quelques clics. Rapide, sécuritaire et fiable. Puis surtout, ton argent reste au Québec. Télécharge l'application Tibi Taxi dès maintenant. T'es chauffeur d'une application étrangère? Avec Tibi Taxi, tu gardes 100% du montant de ta course. Va sur tibitaxi.com pour devenir chauffeur. Tibi Taxi, on roule pour le Québec.
Salut, c'est Carbo. Pour moi, l'antirouille Crown, entièrement fabriqué au Canada, c'est le top. Tu réserves, ils enlèvent toute trace de calcium de ta voiture, la traitent contre la rouille et la lavent ensuite. Épargne même 30 $ sur le forfait. Trouve le centre le plus près au crown.com.
Hey, mon Yvan, t'es-tu rendu à la retraite?
Ouais, le mois prochain.
Ben voyons donc, t'es ben trop jeune pour rester planté chez vous.
Jeune? Ben on va se calmer. Disons que je suis rendu là.
Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à te chicaner avec Cathy?
Ah, regarde, je vais me trouver de quoi.
Entretien Capital recrute. Poste à temps partiel disponible 15, 20 ou 25 heures par semaine selon ton horaire. Une équipe solide en affaires depuis plus de 35 ans avec des emplois partout dans la grande région de Québec. Facile à trouver sur Facebook et en ligne. Cherche Entretien Capital, pas de E à Capital.
C'est parfait pour toi, ça, mon Yvan.
T'as bien raison, mon popole.
Si ça marche, c'est toi qui paye le lunch la prochaine fois.
Entretien Capital, pas de E à Capital.
This is not a test. Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Fans et comme on le disait juste avant la pause, il y a d'autres mystères dont on va discuter ce soir. Entre autres, Christian, à quand le retour du moi?
Ouais. C'est amusant parce que notre émission d'aujourd'hui, c'est parapsychologie et cryptozoologie. Oui. Donc, cryptozoologie, faut-il s'entendre, hein, c'est les animaux inconnus ou méconnus de la science. Et là, bien évidemment, on connaît tous les super vedettes de cet univers-là, de la cryptozoologie, hein, le monstre du Loch Ness, le Bigfoot, Sasquatch, bon, toutes ces créatures un peu fantastiques. Mais il faut savoir que dans la réalité, sur le terrain, les cryptozoologues, c'est un très beau mot, là, mais entendons-nous, là, ça n'a pas de valeur scientifique, c'est un cryptozoologue.
Ah
là,
non, c'est pas...
Tu vas pas chercher ça, c'est pas un diplôme à l'université, ça.
Non,
tu vas pas chercher ça à l'université, là. Un diplôme de cryptozoologie, non, on n'a pas ça. Il y a des zoologues qui s'intéressent à la cryptozoologie, mais on comprend bien que la cryptozoologie est plutôt un hobby, un intérêt un peu fantaisiste ou fantastique. Dans cet univers-là, comme je t'ai mentionné, quand on parle des super vedettes, on parle bien sûr du Bigfoot, le Sasquatch, le monstre du Loch Ness, mais en réalité, ces créatures-là appartiennent à ce qu'on pourrait dire à l'étiquette exotique. Hein. Ce sont des créatures exotiques. On n'est pas sûr si ça existe, mais en tout cas, hein, c'est assez exotique.
Ouais.
Et on s'entend bien que, bon, le Bigfoot... À part du Bigfoot, on n'a pas, c'est pas un animal qui a existé, ça, le Bigfoot, tu sais, là, ou, tu sais, le Mothman, une espèce d'homme volant avec des ailes de papillon, là. Bon, on est d'accord que il n'y a pas dans les livres de paléontologie, on n'a pas de fossiles de Mothman, tu sais, bon.
Ouais.
Donc, ce sont des créatures qu'on pourrait qualifier d'exotiques. Mais on a également un autre type de créature qu'on appelle les Lazarus. Les Lazarus, hein, ça vient de Lazare, le cousin de Jésus qui était mort et que Jésus a ramené à la vie. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des Lazarus. De Lazare. Donc, des créatures ramenées à la vie. Et quand on dit ramenées à la vie, ben, ça veut dire simplement qu'elles ont survécu à leur mort. Et là, on est beaucoup plus proche d'une véritable préoccupation d'ordre zoologique. Et on n'est pas toujours dans le domaine de la fiction. Je vais te donner un bon exemple. Par exemple, le dernier cougar de l'Est au Canada, au Québec, à tout le moins, a été abattu, là, de mémoire, c'était en 1932, en 1934, dans ces alentours-là. Donc, pendant de très, très longues années, comme le dernier cougar de l'Est avait été abattu, on disait que l'animal avait disparu. Donc, on en retrouvait après ça. Si on voulait trouver des cougars de l'Est, il fallait descendre jusqu'en Virginie ou des trucs comme ça. Mais au Québec, par exemple, quand des gens disaient, dans les années 60 ou 70, j'ai vu un cougar, ben, c'était quasiment comme s'il avait dit qu'il avait vu une soucoupe volante. T'sais, on disait, ouais, t'as vu un cougar, hein? Bien sûr. Puis il y avait quoi? Des ailes dans le dos, puis il flottait. t'sais, c'était comme assez invraisemblable que des gens puissent voir le dernier cougar ayant été tué quelque part au début des années 1930. Et puis, vers la fin des années 70, ces témoignages, considérés comme fantaisistes, sont devenus de plus en plus nombreux. Et là, ben, éventuellement, le ministère de la Faune a dit, ben là, on va commencer à s'intéresser à ces... Peut-être que ces gens-là sont peut-être pas fous. Il est peut-être possible que des cougars aient survécu et qui, pendant de très, très longues années, les populations étaient tellement faibles qu'ils ont passé un peu sous le radar. On a cessé de les voir. Et donc, à partir de la fin des années 70, début des années 80, le ministère de la Faune, quand même, il faut le dire, hein, le ministère de la Faune, j'ai fait des entrevues avec à ces gens-là, l'animal n'était pas considéré comme disparu.
Officiellement,
plutôt comme... Ouais, c'est ça. Il n'était pas officiellement sur la liste des animaux disparus, mais il était sur la liste des animaux en voie de disparition.
OK.
Ils sont en voie de disparition pendant 50 ans, puis quand on ne les a pas vus pendant 50 ans, on les met sur disparus. Mais techniquement parlant, même s'ils n'étaient pas officiellement classés comme disparus et simplement comme en voie de disparition, honnêtement, on n'y croyait pas. quand les gens disaient ça, là, j'ai vu un cougar. Là. J'étais allé dans une forêt en Estrie, puis j'ai vu un cougar. Les gens disaient, non, t'as rêvé, c'est pas ça. T'as vu autre chose.
Ouais.
Un chien, mais c'est pas ça que t'as vu. Et puis, comme je l'ai mentionné, fin des années 60, fin des années 70, début des années 80, devant la multiplication des témoignages, on a commencé à s'intéresser davantage à ces récits de gens qui disaient avoir vu des cougars. On a commencé à monter des cartes où on avait pu voir ces animaux. Et puis, arrivent les années 2000, et là, on va installer des poteaux de frottage, donc avec des hormones qui auraient pu attirer les cougars. Et on s'est dit, ben, si le cougar y va, puis il se frotte dessus, ben, il va laisser des poils. Et là, si on capte, on prend des poils et on les analyse, ben, on pourra déterminer si oui ou non c'est des poils de cougar ou des poils d'autre chose. Et au grand étonnement des agents de la faune, dans ces fameux poteaux de frottage, ils ont trouvé des poils qui étaient bel et bien des poils de cougar. Et là, on est au début des années 2000. Donc, déjà là, là soudainement, on s'est dit, wow, là, il y a quelque chose qui se passe. Là. Et éventuellement, il y a un de ces cougars qui va être happé par une voiture. Donc là, on a un premier corps d'un cougar. Et là, après ça, on va avoir des images, des caméras qui sont placées dans des forêts qui vont filmer les cougars. Donc maintenant, même si aujourd'hui, il est toujours sur la liste des animaux en voie de disparition.
Il en reste quelques-uns.
Le cougar de l'Est est une réalité. Donc, oui. Si des gens en Estrie y vont, puis ils disent, ben, ou des gens, par exemple, près de les foyers où on en a vu beaucoup, ben, beaucoup, entendons-nous, là, c'est l'Estrie et la région là, en se dirigeant vers la Gaspésie, là, dans les grandes forêts qui sont au nord, admettons, de Rimouski, tout ça, là, des gens racontent en avoir vu. Donc, on sait maintenant que le cougar de l'Est, même s'il est toujours en voie de disparition, il n'est plus maintenant un mythe. Il existe, il est là. Ce sont des animaux qu'on dit Lazarus. Donc, on a cru qu'ils étaient disparus, mais ils ont survécu. Dans le cas du cougar, on a une preuve de sa survie. Il y a d'autres animaux qui, eux, malheureusement, malgré les témoignages, on n'a strictement aucune preuve qu'ils aient survécu. Et je pense que le plus mythique d'entre eux, d'ailleurs, faut pas s'étonner que c'est un animal qui est à l'emblème de la Société de cryptozoologie, parce que la Société internationale de cryptozoologie qui regroupe plein de cryptozoologues allant des plus fantaisistes à des gens beaucoup plus sérieux. Ils ont un logo. Et sur le logo, c'est un thylacine. Donc, le thylacine, c'est probablement, de tous les animaux Lazarus, c'est probablement le plus fabuleux. Pour les gens qui ne savent pas de quoi je parle ici, le thylacine, qu'on appelait également tigre de Tasmanie ou loup de Tasmanie. Donc, c'est un animal qui avait à peu près la taille d'un chien berger, là, un berger allemand. Hein. C'est un animal qui avait une fourrure un peu brunâtre, là, un peu fauve, mais sur le dos et son arrière-train, il est marqué par des zébrures qui rappellent un peu un zèbre, ou un tigre, hein, d'où le nom tigre de Tasmanie. Même si visuellement, d'ailleurs, les gens qui nous écoutent peuvent même voir des images de cet animal-là vivant. Hein, on parle bel et bien d'un animal vivant. Le dernier est mort en 1936 dans un zoo de Hobart sur l'île de Tasmanie. À une époque, le tigre de Tasmanie était très répandu à la fois en Australie et en Tasmanie. Mais il y a eu une chasse telle, parce que quand les colons se sont installés en Australie, qui était une colonie britannique, on a introduit des moutons, notamment, et le thylacine, c'était le prédateur qui était au sommet de l'échelle. Donc, tu comprends que quand on a introduit des moutons, pour le thylacine, c'était, ou tigre de Tasmanie, là,
oui.
C'était « wow, c'est le buffet à volonté ». Fait que le gouvernement a instauré des chasses pour éliminer le thylacine, considéré comme un animal nuisible. Et on l'a tellement chassé qu'on l'a éliminé. On l'a complètement... Il est disparu. Et le dernier spécimen, qui s'appelait Benjamin, un nom masculin, même si l'animal était une femelle, donc on devrait l'appeler Benjamin. Donc Benjamin était gardé dans un zoo de Hobart, en Australie, et elle est morte, le dernier spécimen est mort en 1936. Et crois-le ou non, il est mort parce que son gardien a oublié de le rentrer à l'intérieur ce soir-là, puis il a fait très froid, puis l'animal est mort de froid. Et c'est un animal qui est très particulier. C'est sûr qu'il fait fantasmer, là. C'est un animal hors norme, le thylacine. Il ressemble à un chien, mais comme c'est souvent le cas d'ailleurs en Australie, hein, ils ont des bébites un peu bizarres. Le thylacine, croyez-le ou non, il ressemble à un chien, mais c'est un kangourou. Okay. Fait, quand je dis un kangourou, c'est un marsupial. Donc, ouais. C'est un... C'est, grosso modo, c'est un chien marsupial. C'est un chien, mais il appartient à l'ordre des marsupials. Ça veut dire qu'il a une poche. Donc, comme les kangourous, là, les petits naissaient un peu pratiquement sous forme d'embryon, regrimpaient puis allaient dans la poche où ils finissaient leur développement à l'intérieur de la poche ventrale de la mère. Ce qui avait aussi une caractéristique très particulière du thylacine, si tu vas voir des images en noir et blanc, où on voit Benjamin ou Benjamin, si tu veux,
oui.
Et on la voit à quelques reprises, elle regarde la caméra et elle ouvre sa mâchoire. Elle avait une capacité d'ouverture de mâchoire qui était hallucinante. Elle pouvait ouvrir pratiquement sa mâchoire à 90 degrés. Tu t'imagines, ce que ça fait comme angle, comme ouverture de la mâchoire, c'est incroyable. Et cet animal-là, il est mort. Il est disparu. Et comme il était unique à la faune de l'Australie et de l'île de Tasmanie également, cette faune-là, on le sait, la faune australienne, c'est une faune très particulière. Hein. C'est le seul endroit au monde où on retrouve des kangourous. C'est le seul endroit au monde où il y a des koalas. Bon, il y a plein d'animaux un peu étranges qu'on retrouve. L'ornithorynque, par exemple, oui. On ne retrouve que dans ces régions-là. Ce sont des animaux un peu hors normes. Mais le thylacine, pour une raison un peu étrange, mais en même temps pas tant étrange que ça, mais il est devenu un peu un symbole pour les Australiens. C'est devenu comme un animal mythique. C'est « wow, le thylacine ». Il n'y avait que chez eux qui en avait. Et évidemment, on se mortifie de se dire « Colin, pourquoi on n'a pas essayé de mieux le protéger? Mm-hmm. » Aujourd'hui, il a disparu. Mais le thylacine, l'avantage, puis ça va nous amener un peu à notre nouvelle, le thylacine, il faut quand même le dire, comme il est mort récemment, le dernier spécimen, comme je t'ai mentionné, est décédé en 1936, il y a des documents qui ont été découverts assez récemment qui montrent qu'il y aurait peut-être eu un spécimen qui aurait été gardé en captivité qui serait mort 2 ou 3 ans plus tard dans un autre jardin zoologique privé, un animal, un autre thylacine qui serait mort quelques années après. Mais néanmoins, pour les besoins de l'histoire, on garde que c'est Benjamin qui est le dernier thylacine vivant, connu et qui est disparu. Mais comme c'est un animal qui est disparu récemment, on a dans des laboratoires et dans des jardins zoologiques ou dans des centres, des musées d'histoire naturelle, on a non seulement des animaux empaillés, des thylacines empaillés, moi-même j'en ai vu à quelques reprises, mais on a également, et notamment au musée de Hobart, au Centre national de Hobart, on a des embryons de thylacines dans des pots. Donc, des espèces de peaux, des béchères de laboratoire, là, on a des embryons de thylacine qui ont été prélevés alors qu'il y avait une population qui était relativement assez importante. Au début des années 1900, par exemple, on a gardé des embryons dans des laboratoires alors que les scientifiques faisaient des recherches. Tu comprends que ces embryons-là n'ont finalement qu'un siècle. Mm-hmm. Ce sont des embryons pour lesquels on a énormément de matériel ADN. Donc, éventuellement, on peut toujours se dire, on pourrait éventuellement cloner le thylacine.
Faire comme Jurassic Park.
Une possibilité. Là où l'animal est un animal dit Lazarus, c'est parce que, officiellement, le dernier est décédé en 1936. Mais depuis 1936, autant sur l'île de Tasmanie qu'en Australie, mais dans la partie nord, là, le Queensland de l'Australie, des gens en forêt racontent avoir croisé ou vu des thylacines. Donc, ils reviennent de leur expédition en forêt, puis ils disent, ben voilà, j'ai rencontré un thylacine, j'en ai vu un. Jusqu'à maintenant, malheureusement, on n'a pas de preuve de ça. Récemment, il y a quelques semaines, c'est Turner qui est décédé, Ed Turner, je crois son nom, qui était propriétaire de réseau de télévision. Mais je sais qu'il avait offert un truc comme $1 million à quiconque apporterait la preuve que le thylacine... Ted Turner, c'est ça. Donc Ted Turner avait dit « J'offrirai $1 million à qui m'amène la preuve qu'un thylacine est toujours vivant ». On ne l'a pas, cette preuve-là. On a des témoignages, un peu comme nos histoires de cougars dans les années 60 ou 70, qui éventuellement se sont révélées vraies. Mais dans le cas du thylacine, on a donc des gens qui vont en forêt et disent « Ben voilà, j'ai vu des thylacines ». Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de preuves, pas de photos convaincantes, rien du tout. Pas d'excréments non plus, pas de poils. Il y a de fortes chances, malheureusement, que le thylacine n'existe plus.
Oui,
quoi
c'est
que,
ça.
J'ai vu beaucoup de films que j'ai pas trouvé convaincants. Il y en a un toutefois tourné en 1966 de mémoire où des gens ont filmé avec une caméra Super 8. On voit un animal qui court au milieu de la rue et qui s'enfuit dans la forêt. Et le temps qu'il traverse la rue devant les témoins, on a vaguement l'impression, mais c'est un film en Super 8. La qualité, la définition de l'image n'est pas extraordinaire. Mais ce que l'on voit sur les images, c'est un animal qui est apparemment de couleur fauve. On voit que vers l'arrière-train, on voit un peu qu'il est un peu plus sombre, qu'il laisserait supposer des rayures. Mais surtout, la façon dont il court, il court en faisant bondir ses pattes d'en arrière vers le devant. Ce qui était une démarche très typique du thylacine, puisqu'il appartient à la catégorie, à la famille des marsupiaux. Donc, il se déplaçait pas comme un canidé, comme un chien, mais il se déplaçait comme un marsupial, en faisant soutien un peu, là, quand il se mettait à la course, ses pattes arrière avaient tendance à bondir un peu. Et c'est ce qu'on voit sur ces images de 1966. Donc, un animal qui, malgré la mauvaise qualité de l'image, semble être un thylacine. Et la façon dont il court de manière très atypique pour un chien. Donc, ça pourrait peut-être être un thylacine. Mais ce sont quand même des images anciennes, hein? 1966, là, de mémoire. Donc, depuis, on n'a pas apporté de preuves de ça.
Oui, non, je comprends.
Et donc, le thylacine, comme le cougar et d'autres animaux, dit Lazarus, ce sont des animaux qu'on sait qui ont existé, mais qui ont disparu. Et rien ne permet de croire que ces animaux ont survécu. Et tu me parlais du moa.
Oui, le moa
est un animal Lazarus. Hein, Lazarus dans ce sens que c'est un grand oiseau de Nouvelle-Zélande. Grand oiseau là, qui ressemblait un peu à une autruche. Là. On voit un peu le genre. Mesurait 3,50 m de haut. Donc, 12 pieds de haut, ça commence à être un gros animal. Donc, 3,50 m de haut et il est officiellement disparu depuis à peu près 750 ans. Et bon, évidemment, il y a quelques récits à gauche, à droite de gens qui disent en avoir vu des moas, mais bon, tout porte à croire que l'animal est officiellement disparu. Mais c'est un animal Lazarus. Donc, à partir du moment où tu as des récits, bon, oui, ça se pourrait, mais on n'en a pas vu. Et pour le besoin de notre nouvelle, il faut quand même te le dire, le plus grand collectionneur de restes de moa, et quand je dis de restes, c'est surtout des ossements de moa, ben c'est Peter Jackson. Peter Jackson, réalisateur néo-zélandais qu'on connaît bien pour la fameuse saga Le Seigneur des Anneaux. Hein, c'est lui qui a réalisé ça. Donc, Jackson possède une extraordinaire collection d'os de moa. Il y a même des œufs pétrifiés de moa. Et donc, tu vas comprendre pourquoi son rôle est important ici. Donc, on a cette semaine, en début de semaine, on a vu apparaître, et là j'en arrive un peu à ma presse scientifique, on a vu apparaître une série d'articles d'une compagnie qui est située au Texas qui s'appelle Colossal Bioscience. Et Colossal Bioscience, on dit, ben voilà, on a réussi à produire 26 poussins qui sont nés dans un œuf artificiel. Et pourquoi un œuf artificiel? Ben parce que cette compagnie, Colossal Bioscience, c'est une compagnie qui a été fondée en 2021, une compagnie américaine. Et leur objectif, une compagnie privée, et leur objectif est éventuellement de ressusciter des animaux disparus. Et quand on parle d'animaux disparus, on parle bien sûr du moa. D'ailleurs, Peter Jackson fait partie un peu du conseil de l'organisation. Et Peter Jackson a prêté ses ossements de moa pour qu'on puisse essayer d'en tirer de l'ADN. Et la problématique avec la reproduction ou le clonage d'animaux, parce que les gens s'imaginent un peu Jurassic Park.
Oui, oui, c'est ça.
Mais il faut quand même préciser que la problématique au niveau de la génétique, c'est qu'on ne peut pas reproduire dans l'air. T'sais, il faut que tu aies une matrice où tu vas reproduire ton animal. Et cette matrice-là, malheureusement, ça s'appelle un utérus. Ouais. Et c'est pas n'importe quel utérus qui peut fonctionner. Là, donc, par exemple, notre fameux thylacine dont je te parlais il y a quelques minutes, ben, le thylacine étant un marsupial, donc un kangourou, il appartient à la famille des kangourous, si on pouvait prélever de l'ADN de bonne qualité, on pourrait peut-être introduire cet ADN dans une cellule. Le plus proche parent, par exemple, du thylacine, c'est un animal. C'est vraiment, on est vraiment. Oublions l'esthétique.
Ben oui.
Non, mais oublions l'esthétique aussi, parce que les gens disent ça ne se ressemble pas du tout. Mais pourtant, l'animal le plus proche du thylacine, c'est le wombat. le wombat qui a l'air un peu d'un castor.
Okay.
Un animal, c'est un marsupial, mais il a l'air d'un castor. Donc, le wombat, un gros castor ou une marmotte. Hein? Peut-être plus proche d'une marmotte. Il y a de l'air de ça. Donc, ouais. Le wombat, c'est le plus proche parent du thylacine. Donc, on pourrait éventuellement, si on arrivait à prélever de l'échantillon de l'ADN de qualité d'un fœtus ou d'un embryon de thylacine, on pourrait l'introduire dans le noyau d'une cellule de wombat et réintroduire cette cellule à l'intérieur de l'utérus, en fait de la poche, d'abord de l'utérus et ensuite dans la poche du wombat pour permettre à cet animal modifié de grandir. Mais il a besoin de se retrouver dans un environnement génétiquement proche du sien. Donc, Colossal Bioscience, on dit, ben nous, on voudrait recréer le thylacine. C'est pas le seul. Il parle également de reproduire un mammouth. Donc, on sait, on a retrouvé là, depuis... le début du siècle, je pense qu'on a trouvé 4 ou 5 mammouths très bien conservés, notamment dans les steppes dans le nord de la Russie, hein, dans le permassol, dans le pergélisol, puis tout ça. On a trouvé des échantillons, des restes de mammouths très, très bien conservés, dont on a pu tirer de l'ADN d'assez bonne qualité. Pas encore d'assez bonne qualité, mais on ne sait pas ce que la science va permettre de faire dans 10, 20 ou 30 ans. Hein. Mais bon, on a quand même des échantillons ADN. Et là, on a des parents. Hein, c'est ça qu'il faut, c'est le parent.
Oui.
Le tyrannosaure, là, on n'en a pas de parent. Donc, recréer un tyrannosaure, on ne peut pas faire ça. On n'a pas de parent de tyrannosaure. Je ne sais pas si tu le savais, là, mais les descendants des dinosaures, c'est nos oiseaux. T'sais, fait que oui. je vois mal un pigeon en train de couver un œuf de tyrannosaure. T'sais, ça ne fonctionnera pas. Mais dans le cas, par exemple, du mammouth, on a de proches parents. On a, par exemple, les éléphants d'Afrique ou les éléphants d'Asie qu'on pourrait utiliser comme étant des matrices dans lesquelles on pourrait introduire des cellules modifiées avec de l'ADN de mammouth pour permettre à ce mammouth d'apparaître. On est dans la science-fiction, là. Faut quand même le dire.
Vraiment, oui.
Science-fiction. Bon, l'annonce de Colossal Bioscience en disant, voilà, on a créé 26 poussins dans un œuf artificiel, c'est l'idée, c'est une première étape dans leur objectif de recréer le moa. Le moa, comme je l'ai mentionné, Peter Jackson a prêté des os, ils ont prélevé de l'ADN. Comme c'est un animal qui est disparu depuis 750 ans et non pas un million d'années, bien évidemment, l'ADN est de meilleure qualité. Mais... d'après les scientifiques, l'ADN reste quand même trop détérioré pour imaginer de reproduire ça. Mais néanmoins, c'est un peu l'objectif de la compagnie. Et donc, en disant on a créé 26 poussins, c'est 26 poussins qui sont nés en dehors de l'œuf. Parce que pour le moa, on a besoin de créer une matrice artificielle parce qu'on ne peut pas prendre un œuf de poulet. Là. Le poulet est trop éloigné du moa. Là. Donc, on a créé, quand même le dire, là, c'est quand même des œufs qui avaient été fécondés de manière naturelle. On a pris un œuf fécondé. Une fois qu'il a été fécondé, qu'il y avait un début de développement à l'intérieur, on a brisé la coquille de l'œuf, on a pris son contenu de l'œuf et on l'a mis dans une matrice qui avait été fabriquée, la matrice, l'œuf en lui-même. On a fait ça avec 26 petits poussins. Là. On les a placés à l'intérieur d'une grosse coquille qui, elle, avait été imprimée sur une imprimante 3D. Et à l'intérieur, il y avait une espèce d'enveloppe qui était faite en silicone qui laissait passer l'oxygène. Et ça a permis à nos fameux poussins d'apparaître. Et là, ben, ils ont atteint leur maturité, puis ils sont viables. Donc okay. Là, on est tout content. Puis là, la presse s'empare de ça. Puis ben là, il faut quand même dire, attends une minute, là, poète, là. Il y a une espèce de... Il y a un manque de qualité scientifique avec ça. D'abord, là, on est dans l'univers de la science-fiction. Nos histoires de poussins, là, c'est des poussins qui avaient été fécondés de manière naturelle. L'histoire de l'œuf et la matrice, là, c'est pas une nouveauté. Ça existe depuis des années 90. Il y a des scientifiques, notamment en Asie, au Japon, qui avaient réussi à faire ça. Donc, on n'est pas vraiment dans une nouveauté. Et cette même compagnie, Colossal Bioscience, c'est cette même compagnie qui, l'an dernier, avait fait la manchette en disant qu'ils avaient recréé ce qu'on un animal qui était particulier, qu'on voyait notamment dans la série Games of Thrones. Là, c'est ça,
Games of Thrones.
Qu'on appelait le loup sinistre. Donc, l'an dernier, on disait, hey, on a créé trois échantillons ou trois nouveaux loups sinistres. Et là, on s'est dit, et le loup sinistre, c'est quand même un loup qui est disparu depuis 12 000 ans. On s'est dit, wow, c'est fantastique. Encore une fois, mauvaise presse. Parce qu'en réalité, les loups sinistres qu'ils ont créés, c'est simplement des loups gris auquel ils avaient apporté une vingtaine de modifications génétiques pour le faire ressembler à un loup sinistre. Mais c'est pas un loup sinistre, tu comprends-tu?
Oui.
C'est pas parce que mon nez ressemble à celui de mon voisin que mon le voisin
c'est
est mon frère.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu la même chose. On a créé des loups avec des modifications génétiques qui le font ressembler à un loup sinistre, mais ce n'est pas un loup sinistre. C'est la même chose avec les œufs. Là. L'histoire des poussins qui est apparue cette semaine, puis là, je vois que le temps nous manque, mais...
Ouais.
L'histoire des poussins, moi, j'ai vu une très mauvaise presse scientifique. Là. Ils racontaient ça comme si c'était une grande nouveauté puis que demain matin, on était sur le bord de créer des mourants. Là. On n'en est pas là, là. La compagnie, d'ailleurs, fait un peu de la science spectacle. C'est ce qu'elle fait. Elle a fait, d'ailleurs, l'an dernier avec ses histoires de loups sinistres. Elle fait un peu de la science spectacle pour essayer d'attirer, de soulever des fonds. Depuis sa création en 2021, la compagnie a réussi à s'attirer des donations qui avoisinent le 650 millions de dollars. Donc, en faisant des déclarations comme celle-là, en présentant des trucs qui sont un peu fantaisistes, comme étant de la nouvelle science ou la science de demain, ben ils attirent peut-être les investisseurs. Mais si, et là, c'est un reproche que je fais, puis en fait, je peux le prendre également pour moi, je veux dire, moi, il m'est arrivé aussi de commettre des erreurs, mais je pense que les journalistes scientifiques devraient faire attention et de mieux vérifier l'information avant de la véhiculer de manière aussi... Ben, disons, aussi fantaisiste. Mm-hmm. Parce que là, de la façon dont on nous raconte ça, là, on est en plein cœur de Jurassic Park, alors que la réalité est très, très loin de ça. Voilà, c'était ça.
T'sais, on est vraiment dans la science-fiction, Christian, dans le Jurassic Park.
Ah oui, ça c'est sûr. Et c'est pas demain matin. Hein, moi, j'ai regardé là, les véritables scientifiques qui travaillent dans le domaine de la génétique. Eux, d'ailleurs, quand ils ont vu la nouvelle passer, ils ont dit hey, « c'est pas demain qu'on va créer des mois, puis c'est